Salut à tous, bienvenue dans la sixième émission de Passement de Jambes, une émission un peu spéciale. On va essayer de pas mal parler du classico d'hier. Je suis accompagné de Bolbar.
Salut.
Et de Bastoun.
Bonsoir.
Qui a une très belle coupe à la Zlatan Ibrahimovic. Alors, on va démarrer un grand classique par le point martial, le martial combat. Alors, il s'est passé quoi cette semaine? Pas grand chose.
Il a pas été transcendant.
Il a fait quand même un geste de folie à un moment. Où il s'est retourné dans la surface et il est tombé sur Petr Cech, mais sinon Manchester United c'était un match de merde quoi,
ils ont fait 3-0 par Arsenal.
Il a réussi à faire un enchaînement dans le match
quoi. Voilà, enfin, un enchaînement dans le match, c'est pas mal.
C'est juste que il est pas encore au stade où il fait basculer un match à lui tout seul. On lui souhaite une destinée comme ça, mais bon, pour l'instant ça reste un bon joueur et quand ça tourne bien il arrive à rentrer dans le truc et à marquer ou à faire une passe décisive, mais il peut pas porter son équipe encore, hein, c'est trop compliqué.
Ouais. À part Rooney qui avait la rage, personne s'est vraiment illustré dans le match.
Ils sont tous passés au travers, mais ils ont pris le bouillon pendant 20 minutes, ça a fini à 3-0 et après basta.
Ouais, c'est clair.
Le match était terminé. Bon, on espère qu'on aura plus de choses à dire la semaine prochaine.
Surtout à Martial de faire France. Un peu plus. Hein.
Si, la semaine prochaine, on peut faire le point Martial spécial équipe de France et peut-être qu'on aura plein de choses à dire. Hein.
Attends, il y aura la Saint-Nazaire.
Attendez, tu vas trop vite en besogne là, Bobo. Alors après, premier thème de la soirée, la Ligue des Champions. On est un peu obligé d'en parler à chaque fois qu'il y a des matchs dans la semaine. Mm. On va commencer par les clubs français, PSG et Olympique Lyonnais avec deux résultats différents. Le PSG qui gagne et Lyon qui perd. Bobo, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Je sais pas, étrangement, je suis sorti un peu insatisfait de ce match-là, même si ça fait. Enfin, c'est pas. Je remets pas en question la victoire. Tu te dis que même un peu dans le dur, les gars, ils font le boulot et tu sens qu'il y a quand même de la facilité. Mais justement, hein, tellement de facilité que moi, ils te donnent un peu l'impression à la fin du match qu'ils ont fait. Ils ont fait le taf, mais parce qu'il fallait le faire, mais pas forcément.
Globalement, le score, il reflète pas du tout le match.
Ils
gagnent quoi, 3-0. Ouais. Les mecs de Donetsk, ils avaient les pieds carrés, je crois.
Non, puis surtout, j'ai l'impression que Jesus, il était du côté du PSG. Parce que quand tu vois tout ce que Donetsk, ils ont raté, mais vraiment des choses, vraiment, t'as l'impression de voir le club que tu supportes depuis toujours en train de paumer vraiment le pire match possible. Et Shakhtar, ils m'ont vraiment fait de la peine. Quoi.
Mais ça aurait pu faire 3-2, quoi, facile.
Oh, facile. Et puis même, non, je trouve Shakhtar.
Une frappe cadrée. Bon, après, t'as Di Maria qui rate 2-1 contre 1.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, ils ont fait le boulot et ouais, c'est
Verratti
aussi ça.
Verratti avait froid, il n'a pas trop joué encore.
C'est aussi ça, les grandes équipes, c'est gagner quand c'est compliqué et gagner finalement relativement peu dans la douleur. En fait, ils sont mis vite à l'abri.
C'est un peu à l'image de leur début de saison. Un match quand même assez carré, mais sans forcer. Et tu vois que même sans forcer, ils mettent des tôles. J'espère pour eux que ça va pas, qu'ils vont pas avoir un retour de bâton parce que.
Mais clairement, ça suffira pas contre le Real, en tout cas le 21 octobre.
Si c'est le Real de Ronaldo qui met des quintuplés, donc ça sera compliqué.
Après, je pense que le PSG est largement capable d'hausser son niveau de jeu quand il faut.
On va voir. Il y avait Ricana dans la tribune, donc c'est à l'instar.
C'était pendant le classico.
Benzema, il va avoir le seum, il va vouloir marquer contre le PSG. Il va avoir des buts à trappe, là, c'est ça. Manger.
Et alors, l'OL qui a quoi, un point en deux matchs, qui a fait un nul à la Gantoise et là qui perd contre Valence.
Surtout qui a toujours autant de mal à marquer des buts quand même, parce que je sais qu'on va pas trop parler du match de Lyon contre Reims ce week-end, mais c'était quand même pas extraordinaire. Ils ont galéré pour marquer. La Cazette qui rate un péno après qu'il marque sur une action complètement cafouillage qui amène le but. Donc ça c'était contre Reims. Mais en tout cas pour la Ligue des Champions, je les ai trouvés quand même.
Ils ont eu quand même beaucoup d'occasions, non ?
Ouais, mais c'est ça qui est criant, c'est qu'au bout d'un moment, les mecs marquent pas, quoi. Qu'est-ce qu'il leur manque pour tuer la Cazette, peut-être que c'est toujours trop lourd à porter pour lui tout seul, parce qu'à côté de lui, c'est un peu le néant quand même.
Moi, je crois que la Ligue des Champions, c'est au-dessus. Psychologiquement, ils n'arrivent pas à se mettre dedans. Il y a un truc comme ça. Ils doivent jamais faire un nul à la Gantoise, ils doivent au moins faire un nul contre Valence. Et le but qu'ils prennent, finalement, c'est vraiment l'inexpérience. Puisque tu as une espèce de vieille faute à 70 mètres du but et tu as Ferry qui reste derrière le joueur au lieu de se mettre devant le ballon et il y a un contre. Bon, après, Fegouli la met en pleine lucarne, ça c'est un autre débat, mais c'est quand même une faute d'inexpérience ce but-là, ils doivent jamais le prendre.
Moi je trouve que en fait, je trouve ça bizarre comme les équipes où tu as un joueur qui est un peu dans le mal. Et on parle que de la Cazette, mais je trouve que tout le reste, ils sont vraiment aussi Ferry. J'ai l'impression qu'il fait un de ses pires débuts de saison
aussi.
C'est fou. Il y en a plein qui sont vraiment. ils sont vraiment dans le mal. Et surtout, j'ai l'impression que pendant ce temps-là, les supporters, les Bad Gone, qui font une banderole Olas pour les 7 ans, ou je sais pas quoi, là, pour les 7 titres, ouais, mais avec la tête, imagine, tu imprimes la tête de Olas, juste, mais l'imprimeur, il devait être fou, quoi, parce que ça va être une horreur, quoi, tout cet encre gâché, alors qu'on aurait pu, je sais pas, faire des.
Faire des BD.
Bon, quelle tristesse.
Non, puis Val, moi je comprends pas Valbuena qui en ce moment dit qu'il faut qu'il s'habitue à ce nouveau poste de meneur de jeu. J'ai l'impression qu'il a toujours joué meneur de jeu. Moi je sais pas, je découvre un truc.
Surtout avant.
Il a joué dans des 4-2-3-1, il était quand même en 10. Hein. Ouais, il toujours derrière l'attaquant ou toujours un milieu offensif axial. Donc je sais pas ce qui peut changer pour lui dans ce schéma-là. D'avoir deux attaquants devant lui, il a déjà eu en équipe de France aussi, il me semble. Griezmann et Benzema, donc je sais pas, il apparemment il découvre un truc, donc l'excuse pour moi elle va pas tenir.
Mais là, ce qui est fou, c'est qu'ils avaient un groupe facile et qu'ils se le sont rendus difficile, quoi. Et je pense que finalement, la meilleure place qu'ils peuvent espérer, c'est la troisième.
En même temps, quand on a fait un peu les pronos pour les sorties de groupe, moi je disais que je les voyais bien faire troisième, hein, et voir le Zénith et Valence devant eux. C'était pas pour leur porter l'œil, mais en même temps, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est ce qui se dessine.
Ouais, ils ont mal manché la saison et du coup, ils n'arrivent pas à décoller, quoi.
C'est dommage parce que je trouve que sur le papier, c'est une des équipes les plus intéressantes de Ligue 1. Enfin, vraiment, moi je trouve ça cool, le Valbuena, tout ça. Machin. Bon, après, ils perdent aussi Fekir. Hein. C'est quand même, je pense qu'ils avaient misé pas mal dessus. Hein. Ils avaient vraiment misé pas mal dessus. Et,
ça change tout.
Ouais, mais tu peux pas te reposer sur un seul joueur.
Non, Fekir, évidemment. Dernière, évidemment, mais Fekir et Lacazette qui va pas bien, c'est quand même difficile. Et c'est leur problème à Lyon. Hein. Ils n'arrivent pas à mettre de
but. Bah, leur vrai problème, c'est Lacazette finalement. Enfin, c'est le problème qui se voit le plus, mais.
Ouais.
C'est parce qu'il met pas de but, quoi. C'est ça qui.
Et que personne ne pointe à côté.
Et personne. Non. Mais Lacazette, il arrive à rater un penalty, ça c'est pas mal aussi.
Il en arrive. Ouais, ça c'est clair.
Bon, alors après, il y a eu quand même deux surprises qui sont Arsenal et la Roma. Arsenal qui a perdu chez eux 3-2 contre l'Olympiakos. Et la Roma qui a perdu aussi. C'est quoi? C'est la fin?
Je sais pas, moi la Roma, je comprends. Je les avais trouvé plutôt pas mal contre le Barça.
Ouais, ils avaient fait un match nul hein, partout.
Ouais, mais là, j'ai pas compris ce résultat-là. J'ai pas compris leur match. Arsenal, je trouve que c'est plus à leur image hein, d'équipe moisie.
Mais ils se sont rattrapés, ils ont mis 3-0.
Ouais, match, ouais, enfin,
mais bon, après.
Non, mais c'est l'équipe qui est capable de faire des scores de dingue et qui est aussi capable de faire des scores tout pourris.
Mais le problème d'Arsenal, c'est qu'ils ont une défense en carton. C'est qu'au bout d'un moment, devant, il y a des possibilités. Hein. Alexis Sanchez, c'est un joueur hors norme. Ramsey, il peut apporter beaucoup. Enfin, bon, à part Olivier Giroud, où tu sais que c'est une pipe déjà, mais sinon, Santi Cazorla, c'est costaud. Théo Walcott aussi. Mais c'est quoi ta défense? C'est Koscielny? S'il avait été fort, on le saurait. Hein. On l'a vu avec l'équipe de France.
Ils ont gagné 3-0 ce week-end, ils jouaient pas.
Ouais.
Bon, après, hasard ou quoi
si après, je sais pas si Gabriel et Mertesacker, c'est forcément mieux que Montréal. Il est fort. J'ai pas l'impression que ça tienne la route en Ligue des Champions. Après, c'était l'Olympiakos. Hein.
Donc, ouais.
Ouais, je me dis que le mec qui avait l'habitude de faire ses paris sportifs et de miser tout le temps sur les outsiders, là, ce début de saison, il doit être bien content. Là, parce que à chaque fois, c'est les gros qui déçoivent, c'est les petits qui arrivent à accrocher des nuls, à accrocher des victoires. Le mec qui avait mis Lyon-Lagantoise un partout, machin, c'est vraiment le début de saison des outsiders.
Mais c'est un peu ce qu'on disait avec Boris pendant la première émission, c'est qu'au début de saison, il vaut mieux jouer les gros rapidement, finalement, t'as plus de chances de les battre, quoi. Plutôt que quand ils sont rodés. Après, il y a le Barça qui a eu un peu chaud au miche, réussi à gagner 2-1 un peu à l'arrache, mais ils ont tellement galéré qu'ils ont perdu ce week-end contre Séville. J'ai vu un peu le match, ils se sont fait archi-dominer, enfin, il n'y avait pas de débat, Séville a mérité de gagner. Mais alors c'est quoi? C'est parce que Messi est pas là?
Moi je trouve quand même que c'est anti-fair play parce que quand tu sais que Messi est blessé, Séville devrait un peu baisser leur niveau de jeu. Non mais je veux dire, c'est hyper important quand même. Ils savent que, je sais pas, il faut que tout le monde y mette du sien et que Messi guérisse au plus vite parce que voilà quoi, c'est hyper important pour le football espagnol.
Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Barça sans Messi c'est fini. C'est plus le Barça quoi.
Qui a dit ça?
Non, c'est une question. Je lance le débat, Boris. On m'a donné ce rôle là aujourd'hui, je lance le débat.
Je pense que le Barça a quand même autre chose à offrir normalement que ça. Ou alors c'est que eux ont trop l'habitude de se reposer sur Messi, mais je pense que c'est le taf revient à Luis Enrique de quand même de leur faire prendre conscience que normalement ça doit jouer quand même parce que tu remplaces Messi par je sais pas même tu fais monter Iniesta, il est capable de le faire, il l'a déjà fait. Tu remets Neymar à droite, tu remets Iniesta à gauche et tu gardes Suarez en pointe. Fin...
Non, mais la fin de la saison dernière, tout le monde était ce grand génie de Iniesta qui est le meilleur joueur du monde et compagnie. Et bon, voilà, c'est à lui de s'illustrer. Voilà, enfin, il doit porter l'équipe un petit peu.
Ouais, mais c'est plus. Pas la même trempe de joueurs, c'est pas le même joueur, c'est pas le mec qui met des buts. C'est
évidemment,
pas...
mais c'est vrai que c'est le technicien de l'ombre, c'est un génie total. Je sais plus si vous vous rappelez, à la fin de la saison, c'était. Il y avait
c'est parce que contre Paris, il a traversé le terrain.
Ah oui, c'était ça, il avait fait. Ouais, c'était. C'était Moïse et Messi.
Mais Iniesta, ça reste comme un joueur extraordinaire.
Mais oui, bien sûr.
Oui, mais c'est pas un finisseur.
Ah bah il marquera, bah, et puis il dribblera pas 10 joueurs comme Messi le fait encore.
Sauf en finale de la Coupe du Monde.
Ouais. Ouais, et ça, c'est Paris Saint-Germain. On aime bien faire.
On aime bien relancer les
chèvres. On aime bien relancer les gens. Il faire que les gens s'illustrent.
Et puis l'éternel Bayern qui a encore gagné.
Ils vont tout faire cette année.
Qui a, je crois, même pas un match nul cette année, non ? Ils ont fait 8 victoires en championnat. D'ailleurs, le championnat est à moitié plié. Ils ont battu Dortmund 5-1 sous Gend.
Ouais, c'est comme le disait
avec encore un doublé de Lewandowski. Donc,
encore.
On va faire le point Lewandowski. On va faire des paris pour savoir combien de buts il va marquer les week-ends. Parce que ouais.
C'est SoFoot qui disait après la victoire du Bayern merci d'avoir suivi la Bundesliga et à l'année prochaine.
C'est exactement ça. C'est fini, quoi. Le championnat est fini. Ils ont 7 points d'avance. Ils mettent des buts à l'appel. Ils ont un attaquant qui est plein de bourre. Moi, je l'avais dit en première émission, mais je pense que c'est eux qui vont gagner la Ligue des Champions cette année.
Ouais, ils sont Arturo Vidal hein, qui est, et Douglas Costa.
Ah, est-ce qu'on peut faire
toutes les semaines, Boris, il nous place le Douglas Costa.
On a une palette. Il avait mis une bobono cam sur Douglas Costa.
Palette à Boris.
On pourra voir tous les mouvements de Douglas Costa.
C'est là que je vous avoue que je me touche tous les soirs de Douglas Costa.
C'est pas faux.
Il avait pris son vieux maillot de Chelsea, Diego Costa, et il a changé le flocage. Il a mis Douglas.
Non, mais là aujourd'hui, je pense que le Bayern c'est la meilleure équipe d'Europe. Je pense de très loin.
Ah bah, elle est hyper équilibrée. Derrière, c'est costaud. Alors, Neuer, bon, il fera toujours des boulettes hein, tous les ans, un ou deux. Mais ça reste quand même le meilleur gardien du monde. Je pense quand même qu'il a une longueur d'avance sur Courtois. Et il permet quand même au Bayern toujours d'arracher les points qu'il faut quand c'est un peu plus difficile pour eux. Et on pouvait se dire que ça allait être compliqué sans Ribéry, sans Robben, et puis les mecs ils ont Douglas Costa, et puis finalement ils font même jouer Coman.
Le mec se
promène. Bah, plus que pas mal. Hein.
Ouais, il fait une passe décisive ce week-end.
Belle remise en Ligue des Champions.
Ouais, il se débrouille bien.
Bon, après, la vraie question c'est qui peut bien supporter le Bayern à part les Allemands. C'est la vraie question. Mais bon, voilà.
À part la moitié des Allemands, parce que l'autre moitié les déteste tous.
C'est vrai, c'est vrai. À part la moitié, c'est comme. Ouais.
Si, il y a Willy Sagnol et Bichente Lizarazu.
C'est vrai.
T'as surtout Bichente, je pense que lui.
Est... Ouais. Mais c'est vrai que le Bayern, c'est un club qui fait pas rêver. Ça fait un peu vieille machine qui écrase tout et qui finalement.
Alors que Dortmund, c'est Dortmund, Sampdoria, les clubs comme ça qui sont vachement.
Mais ouais, et puis Dortmund.
Moi, j'ai l'impression de regarder le Levski Sofia dans les années 70. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils n'existent plus, mais ils sont toujours là. C'est...
Non, mais Dortmund, c'était un peu l'équipe frisson des 3-4 dernières années. Là. Bon, à part l'année dernière où ils ont chuté, mais ils ont fait une finale de Ligue des Champions. Ils ont été champions d'Allemagne. Ils faisaient du beau jeu. Ils avaient plein de jeunes que le Bayern a tous achetés.
Mais est-ce que.
Non, même pas, ils peuvent signer gratuitement.
C'est la technique Olas transposée en Allemagne.
C'est plutôt la technique. C'est Olas qui l'a transposée en France. Il a bien compris quand ça fonctionnait. Non, mais je pense qu'on aura toujours du mal avec leur vêtements de tyrolien et leur pinte d'un litre. Enfin, leur pinte leur chope d'un litre.
Ouais, ils ont cette chance-là d'avoir l'Oktoberfest et ça, c'est quand même pas mal. Ils ont de la chance. Pour ça, ça mériterait peut-être un peu. Non, un peu de les supporter.
Ouais, ou alors il faut aller voir un peu le passé, ils se sont illustrés.
Bon, on va arrêter de donner la parole à Bastien. Alors, le deuxième thème de ce soir, parce que la Ligue des Champions, on a fait le tour, en gros, le Bayern va la gagner, hein, et puis voilà. Le deuxième thème, le Classico.
PSG-OM.
On est un peu obligé d'en parler, puisqu'il a eu lieu hier. Alors déjà, on va essayer de parler peut-être de chacune des équipes. On va commencer par le match de Marseille.
Ils ont bien réussi à reprendre un petit peu ce que Nantes et Bordeaux avaient fait sur les deux derniers matchs contre le Paris Saint-Germain, en les pressant hyper haut et en
jouant physique aussi.
Ouais, en mettant de l'engagement, en réussissant quand même à trouver des mecs dans les intervalles. Tu vois que Michy Batshuayi, il a vraiment dézonné. en quittant les avant-postes pour pouvoir trouver les appuis avec Cabella ou avec Barada, qui finalement c'est pas du tout, on pensait un petit peu qu'il allait rester dans son 4-2-3-1 sur le côté gauche, et puis tu vois qu'il est venu vraiment plus dans un truc à plat,
ouais.
Repiqué dans l'axe et rentré sur son pied droit, du coup, ce qui amène aussi le but, hein. Je les ai trouvés hyper intéressants quand même. Après, tu sens que ça manque de justesse quand même, enfin il manque l'étincelle qui fait que ça peut aller plus loin.
En fait, il manque un peu le joueur qui explose, qui fait tout péter, quoi.
Ouais, parce que alors là, Sana Diarra, il fait un très bon match hier, mais moi je trouve qu'il est hyper bon dans sa couverture de balle et dans sa manière un petit peu de sortir du marquage. On voit plusieurs fois il est pressé par Verratti, par Matuidi. Finalement, il, sur la protection de balle, il arrive à tourner et à trouver quelqu'un. Alors, il fait pas de passe dans le gelon, hein. C'est 0 sur 4 hein, dans le gelon.
Non, il jouait que en latéralité.
Il casse pas les lignes. Alors, il est hyper impressionnant dans sa manière à résister finalement au pressing. Mais moi, ce qui me fait pas rêver chez lui et qui fait que j'arrive pas à transcender et à dire que c'est le patron, c'est que pour moi, le patron, il doit permettre, il doit faire cette passe-là qui casse les lignes, qui met toute l'équipe adverse. Tu vois, qui vient la déséquilibrer. Et là, pour moi, il n'a pas apporté ça. Et c'est là que ça se limite. Enfin, finalement, son influence, elle est limitée sur le jeu. Et qui fait un très bon match. Mais pour moi, il ne fait pas un match de classe mondiale où ce n'était pas le patron. Il n'a pas sublimé la rencontre.
C'était quand même la Sana Diarra Mondovision.
Parce que moi, j'ai un peu de mal. Tu vois, de la même manière que tout le monde a descendu Trapp après son match contre Bordeaux.
Ou comme tout le monde s'est enflammé sur Serge Aurier juste avant le match.
J'ai envie de garder un peu de mesure sur la Sana Diarra. Moi j'y crois pas forcément, j'y crois toujours pas sur la durée. J'arrive à, tout aussi pour ça, parce que là il est censé être à son top, et pour moi c'est pas assez, tu vois. Là hier, Verratti, il fait un match pourri, et je trouve que finalement il fait presque aussi bien que la Sana Diarra sur le match, en faisant un match pourri. Alors tu vois, pour moi un mec top qui survole le championnat et qui sublime le jeu de Marseille,
non,
c'est
mais
autre chose.
Techniquement
il est fort, il y a
il
pas
est
de
solide,
problème,
mais en effet il apporte pas ce supplément de création.
Mais aussi
de jeu,
est-ce que aussi il y a les appels, est-ce que c'était aussi la technique s'il y a pas les appels, il y a pas les passes longues.
C'est quand même, c'est peut-être que c'est dû aussi au duel gagné. Quand tu joues à un seul attaquant, user du jeu long, c'est un peu compliqué, parce que David Luiz et Thiago Silva, quand même, il faut aller les chercher, hein, de la tête. Surtout, Michy, c'est pas trop son jeu. Cabella non plus. Barada, Alessandrini, les mecs, je crois qu'il plafonne. Barada, il est un peu plus grand, mais l'autre plafonne à 1m75 max, quoi. Donc, c'était peut-être pas évident non plus de trouver du jeu long. Ou alors après, je me demandais, est-ce que aussi, s'il fait pas des passes comme ça, c'est parce que il évite à ses partenaires de les mettre en difficulté. C'est-à-dire, qu'est-ce que en face, à Marseille, devant lui, il a des mecs qui sont capables de faire un contrôle orienté quand ils sont marqués et de sortir du marquage, sur la prise de balle. Je suis pas sûr. Donc c'est aussi pour ça qu'il joue vachement latéral et finalement qu'il s'appuie. Sur Benjamin Mendy, mais là sur De Cheglie on en reviendra, parce que le mec
il y a deux choses, et je pense qu'il y a les joueurs qui font pas d'appel, mais je pense qu'il est incapable de faire des passes longues. Quand tu vois David Luiz qui a mis 3 ou 4 ouvertures à 70 mètres qui arrive quasiment à chaque fois dans les pieds, il en a loupé une, mais je pense que Diarra est incapable de faire ce genre de
ballon. En tout cas, je sais pas s'il est incapable, mais il a pas les joueurs en tout cas pour aller les chercher.
Est-ce que Michy
il a fait des appels? Moi je l'ai pas vu faire d'appel en profondeur, il a fait puisqu'il dézonnait aussi. Alors après, Michel, il avait décidé d'être peut-être un petit peu sur pouvoir alterner pressing et possession de balle, ce qui a plutôt bien fonctionné, hein. Je trouve que Michel, je l'ai décrié la semaine dernière justement sur son schéma, et là il est revenu à un truc qui me paraît beaucoup plus sensé. Avec Michy qui dézonnait et où tu voyais les milieux offensifs qui ont pris leur chance, ça a beaucoup tiré, hein, dès le début du match. T'as 3-4 ballons qui sont bien captés par Trapp d'ailleurs, il les relâche pas, mais ça venait de frappe de loin, donc je pense que c'était aussi un peu la consigne de prendre leur chance, et en dézonnant, en venant la chercher, en prenant leur chance aux 20 mètres, quoi. Donc on peut se dire que la Sana, moi, je le condamne pas. En tout cas, les passes qu'il a tentées hier, c'est pas arrivé. Moi je trouve qu'il a pas transcendé le jeu, même.
Non.
Il y a quelque chose, c'est que je trouve que il est sur le match, il est solide, et c'est quand même c'est quand même assez rare d'avoir des joueurs comme
il
ça.
Il est solide et sûr.
En Ligue 1, et ouais. Ouais, d'avoir des
il a pas, il a pas paniqué. Hein. Il y avait fait un Verratti, Matuidi, Mota, il a pas paniqué. Ouais. Il a pas perdu de ballon.
Ouais, non,
c'est pour ça qu'il fait vraiment un bon match, mais il ne fait pas un match exceptionnel.
Non, mais c'est que les gens, je pense que c'est ce qui est assez agaçant, c'est que les commentateurs, machin, ils sont tous, dès qu'ils touchaient le ballon, c'est comme ça, mais je pense que lui-même, il faut pas non plus lui faire un procès.
C'est pour ça que je dis qu'il fait un bon match.
Non, mais il lui manque un joueur qui crée vraiment à côté de lui.
Ouais, je suis sûr que tu lui mets un petit joueur, j'aimerais bien voir comment est-ce qu'il se débrouille. Et c'est pour ça qu'en équipe de France, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura, ouais, aura des joueurs.
Non, mais tu vois,
ce sera certainement le sujet de la prochaine émission.
Ouais. Tu vois, le truc, c'est que quand à un moment il arrache le maillot, enfin il tire le maillot de Cavani, le truc, il a un mètre de lui le maillot, et là il prend un jaune, et puis t'as Marc Gauthon qui fait exceptionnel, qu'est-ce qu'il est digne quand il prend un carton jaune, il ne râle pas du tout. Le mec qui vient de racheter un maillot, c'est un putain d'acte d'anti-jeu. Ah, et derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire, ah, il est super, plein d'humilité et tout. Mais mec, on s'en fout, il vient d'arracher un maillot.
Mais c'est un peu la hype du moment qui fait disparaître la hype Ben Arfa. On parle plus du coup de Ben Arfa.
Et puis le match de Trapp qui a fait disparaître son mauvais match contre Bordeaux.
Exactement.
Moi j'ai un petit truc sur le match, je trouve qu'il a été très bien arbitré.
Je voulais qu'on y revienne à la fin de l'émission, mais on peut y venir maintenant.
Non, mais attends, parce que ça m'intéresse quand même de revenir sur les autres joueurs, parce que il y a quand même des mecs qui étaient.
Globalement, il y a eu ceux qui ont été invisibles, comme Cabella, en tout cas jusqu'à la 75e minute.
Je pense. C'est fou, je comprends pas. Même en jouant 10, là, il fait rien.
Non, mais on a l'impression qu'il n'avait pas joué.
Alessandrini est passé à côté aussi.
Ouais, mais Alessandrini,
c'est un bon joueur.
Ouais, mais c'est un bon joueur quand il arrête.
Monquillo a fait un très bon match.
Ouais, c'était bien. Droit,
hein. Bah, Cavani, on l'a pas vu. Alors, je sais pas si c'est à cause de Monquillo, mais on n'a pas vu Matuidi non plus prendre le couloir. Je pense qu'il a bien fermé. Après, quand il s'est agi de monter et de prendre un peu son couloir, il n'a pas été transcendant non plus, donc il a tenu son couloir. On n'a pas vu Maxwell non plus.
Non, mais globalement la défense était pas mal, à part des Cheglier qui a pris un de ses bouillons.
Rolando,
on en reparlera peut-être au moment du
pénalty. À un moment au tout début du match, il prend un crochet par Di Maria. J'ai l'impression que qu'on l'avait vissé pour au sol.
C'est Di Maria.
Il a pas bougé, il était vissé par.
Un des meilleurs, c'était Mandanda. Il a fait un super match.
Moi je trouve qu'il quand même c'est lui qui plombe le match de Marseille avec sa sortie. Une très très mauvaise sortie.
Oui, la sortie à la fin, je suis d'accord. Mais après il fait deux super arrêts sur Pastore et même avant sur Ibra et tout.
Non, mais c'était un bon match de gardien en tout cas.
Il a vraiment bien géré. Hein.
Mais Deschegliers, pour finir sur lui, parce que je pense qu'on le reverra pas de sitôt. Je pense que quand Benjamin Mendy va revenir, s'il est suspendu encore, on reverra pas Deschegliers, même si. Parce que j'ai l'impression que c'était Cristobal, tu vois, le mec qui joue au PSG. Ils l'ont ressorti, il a 45 ans et il a touché 8 ballons en un match. 70 minutes. Quand il est rentré, JJJ, il touche 11 ballons en 20 minutes. Mandanda, il a touché 30 ballons. Il a fait 30 passes dans le match.
Non, mais globalement, on va peut-être conclure sur Marseille pour pouvoir un peu parler de Paris. Mais globalement, Marseille a fait un bon match. Il y a eu 2-3 individualités qui sont perdues, mais dans l'ensemble, dans le collectif, c'est un bon match.
Et je pense qu'ils font. Alors, on saura jamais, hein, mais je sais pas s'ils font un bon match parce que Paris fait un match moyen ou l'inverse, tu vois.
C'est le bon moment de rebondir sur Paris. Le match de Paris, comment vous l'avez trouvé? Moi, personnellement, j'ai trouvé que les soi-disant cadres n'avaient pas répondu au rendez-vous.
Ouais, moi j'ai juste trouvé que les rôles sont inversés. Ceux qui jouaient mal ont plutôt bien joué. Ceux qui jouaient bien ont plutôt vraiment mal joué. Matuidi transparent, comme tu disais.
En deuxième mi-temps, c'était mieux.
Ouais, c'était un peu
deuxième mi-temps.
Verratti, qui jouait très mal, qui passait à côté de tous ses matchs, là, j'ai trouvé un tout petit peu plus dedans, quoi. Il a fait des bonnes interventions, mais... le Cavani, moi, que je trouve bien depuis début de saison,
il est
vraiment passé à côté. Ibra, c'est toujours problème Ibra,
on va revenir après dans les cas particuliers, mais globalement, il n'y a pas un joueur, c'est ce que j'allais dire, à part Aurier et Trapp. Je pense Aurier fait un bon match.
Aurier est physique.
On va commencer par Aurier. Moi, je trouve que parfois, il fait des sorties et des tacles. Ça me fait peur à chaque fois et je comprends pas comment il finit les matchs. Mais je pense qu'il est trop fougueux. Il va trop. Il en veut trop.
Trop physique.
Mais sur la première mi-temps, c'est lui qui secoue tout le monde. Heureusement qu'il est là, je pense, dans l'engagement, parce que c'est le seul qui tient la baraque.
Mais c'est un peu pareil au match avec des champions d'ailleurs, il était bien.
Ouais, mais après, peut-être, enfin, je sais pas, excès d'engagement ou pas, sur le péno, il passe pas loin du rouge, et ça fait plusieurs fois qu'il passe pas loin du rouge, ouais, il a de la chance. Mais ouais. Je sais plus dans quel match c'était où il.
C'était en championnat, c'était contre Reims, je crois.
Où il tape comme un barbare, il prend le jaune et.
Non, il est dangereux sur ses sorties et ses tacles, il est dangereux. Mais bon,
il est tellement sûr de lui que, bon, je vais pas lui reprocher d'être sûr de lui, parce qu'au contraire, je pense que c'est ce qui fait sa force. Mais on est toujours à la limite, et là, on n'est pas loin de la double peine hier.
Non, mais vraiment, vraiment. Et donc après, le cas particulier, on a déjà parlé des milieux de terrain, on va pas forcément y revenir. Globalement, les trois, Mota, Matuidi, Verratti, sont un peu passés au travers quand même, comme ils étaient passés au travers du champion.
Bon match, je trouve.
La défense centrale a bien tenu le.
Maxwell, super match. Ouais, ils étaient vraiment tous les trois.
Maxwell, il a moins apporté offensivement, mais il était bien.
Offensivement,
Il était plutôt absent, mais en même temps, le jeu se passait au milieu de terrain, il n'y avait pas la place pour lui monter. Quoi.
C'est ça qui est étrange, c'est que Paris. Bon, après, non, c'est pas forcément si étrange, ce que j'allais dire. Paris est passé qu'à droite, en même temps, c'était des Tchéliers de l'autre côté. Donc, c'est légitime aussi, parce que quand t'as un trou comme ça et que tu peux prendre la profondeur dans le couloir, autant pas se priver. Quoi. Mais du coup, ça, on n'a pas trop vu Maxwell, on n'a pas du tout vu Cavani.
Alors justement, tu parles de Cavani, on peut reparler de l'attaque. Bastien a soulevé une hypothèse intéressante, Zlatan Ibrahimovic.
Moi, je suis pas d'accord.
Boris, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je trouve que il joue là où il doit jouer. Quand dans cette configuration-là, il peut pas faire autre chose que jouer en décrochant comme ça. Et il a dézoné comme il le fait déjà depuis plusieurs matchs. Ce qui est juste assez étonnant, c'est que Cavani est pas, moi je trouve, est pas plus proposé d'options dans la profondeur.
Alors on peut avoir ce débat là. Moi j'ai un avis un peu similaire à celui de Bastien, c'est que je trouve qu'en fait Zlatan Ibrahimovic il ralentit le jeu et il le porte vers l'arrière systématiquement.
C'est insupportable.
Les meilleures ouvertures elles arrivaient de la défense centrale.
Il y avait quoi à accélérer hier?
C'est pas la question. Il y a eu des ouvertures de David Luiz de 70 mètres. Zlatan Ibrahimovic il prend le ballon systématiquement. Il y a 4 touches de balle, il ralentit le jeu, il repasse vers l'arrière, il joue tout seul. C'est insupportable.
Il ralentit le jeu à partir du moment où ça bouge pas. Et là c'est ce qui a fait défaut hier au PSG.
Non mais Boris, ça fait 6 mois
autour
que c'est
de
comme
lui,
ça.
Autour de lui, mais non, attendez, c'est pas 6 mois. Il y a des matchs où Zlatan il met 2 passes D et il marque. On va dire, ah là là, en 10 avec Cavani, ça marche trop bien. Ce qui était le cas quand dans le match où Cavani met un doublé. Bah c'est à Nantes, non, non, je sais plus contre qui, mais un doublé.
Non, Nantes, il rentre et il marque de la tête.
Ouais, non, merde.
Mais
met un doublé en début de saison.
Et tu penses que Zlatan a encore sa place en titulaire au PSG?
Ça me semble pas. Fou qu'on pose cette question, quoi.
Mais est-ce que tu as vu cette action quand Pastore est rentré, cette action qui démarre sur Pastore et c'est lui qui est à l'arrivée et qui tire avec un super arrêt de Mandanda? On verrait jamais ça avec Zlatan sur le terrain, c'est impossible, il ralentit le jeu.
Mais alors, je pense que le souci aussi, et je pense que c'est le problème de Laurent Blanc, c'est de réfléchir son effectif avec 11 joueurs. Il faut qu'il arrête de penser que son effectif c'est 11 joueurs.
Il faut qu'il ose mettre Zlatan sur le banc au début de saison, on joue bien sans lui.
Il faut qu'il ose mettre peut-être Zlatan sur le banc, mais il faut qu'il ose mettre Di Maria sur le banc, mettre Cavani sur le banc. Mec, on a Pastore qui est sur le banc, on a Marquinhos qui est sur le banc.
Pastore, c'est une misère qu'il joue pas. Hein.
On a 13 joueurs qui peuvent être titulaires. Pour l'instant, qui clairement titulaires. Il faut juste les faire tourner.
Pour la défense de Zlatan, il faut dire qu'en fait, il fait du foot, mais il a la Coupe du Monde de Taekwondo en même temps. Donc, talonnade, tous ces choses-là.
Ça va, Zlatan,
et là, en fait, là, ce qui est important, c'est qu'il a quand même gagné un trophée de Taekwondo à la fin. Il a gagné.
Il a eu la remise d'un prix.
Le meilleur. Mais,
attendez, les mecs, il a mis 110 buts pour le PSG. Non, vous crachez sur lui.
50 talonnades et 40 ailes de pigeon.
On parle de jeu.
C'est grâce à lui qu'on en est là. Moi, je pourrais jamais.
Écoute, moi, je trouve qu'il a une fâcheuse tendance à vouloir jouer pour le spectacle ou pour son spectacle ou pour lui. Il est jamais juste à quel moment il faut temporiser, à quel moment il faut accélérer, à quel moment il doit la donner. Il est jamais juste là-dedans.
Mais en fait, là, j'ai plutôt l'impression que ça fait 3 piges que t'as envie de dire ça. Je vais aller au fond de ma pensée. Parce que t'aimes pas les joueurs qui jouent pour eux. T'aimes pas les joueurs qui se mettent en avant.
Moi, j'aime le jeu porté vers l'avant.
T'aimes les besogneux, t'aimes les mecs qui jouent pour le collectif. T'aimes Matuidi, Pastore, tu l'aimes pas trop parce que parce que lui il aime faire des belles passes, mais il aime pas forcément être efficace.
T'as pas tort.
Et je pense que c'est ça qui gêne avec Zlatan. Mais quand il mettait 30 buts par saison et qu'il marchait sur les mecs, bah tu disais ouais, il m'énerve un peu à la ramener, mais en même temps il mettait 30 buts, donc ça faisait quand même.
Oui, mais il jouait vraiment devant. Là il s'auto-positionne en 10 alors qu'il a pas le niveau pour jouer en 10.
Mais non, sérieusement.
Moi je trouve que Ibrahimovic.
À quel moment t'as crié quand Ibrahimovic a fait un geste ou une passe ou un machin? Combien de temps que t'as pas crié
cette saison là?
Mais quand?
Mais attends, j'arrive pas à me rappeler du match où il met la passe en profondeur. C'est à Monaco où il met une passe en profondeur. Là, Cavani met un doublé. Il met une passe en profondeur pour Cavani en une touche de balle.
D'accord, mais Di Maria, il en met une après qui est 10 fois mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord que hier, en tout cas, il a fait que des mauvais choix.
Je trouve que Ibrahimovic, c'est un peu le Nicolas Sarkozy du football. C'est un titulaire omniprésent qui fait que des mauvais choix. et personne ne peut contester, quoi.
Et regarde, en Ligue des Champions, son but, il doit jamais le mettre. Il doit la donner à Matuidi.
Il essaie de faire une passe.
Non, il met 3 touches avant de faire une passe. Il doit la donner avant. Je pense que c'est un joueur qui fait des mauvais choix.
Peut-être qu'il voulait
dépasser le record. Et maintenant que c'est fait, il va peut-être finalement jouer pour les autres.
Hier, il met 2 pénaux. Il en tire 3. Va les tirer aussi.
Ah non, mais ça c'est autre chose.
Laurent Blanc peut le faire rentrer pour tirer le pénalty, il le fait sortir juste après. Enfin, voilà, c'est juste
que. Alors là, ça serait bien faire, ça s'appelle du football moderne.
C'est comme
football américain, surtout. Ouais, football américain moderne.
Bon, alors globalement, le PSG a pas fait un grand match, mais il gagne. Alors il gagne justement, on va pouvoir reparler de l'arbitrage parce qu'il gagne sur 2 pénalties.
Les trappes, non, parce que quand même.
Justement, je voulais en parler avec les pénalties, justement. Alors globalement, un très bon arbitrage. Ouais. On a regardé le match ensemble hier avec Bastien et on s'est rendu compte que pendant les 25 premières minutes, il n'y avait quasiment pas d'arrêt de jeu. L'arbitre, il laissait jouer, il n'était pas dans la sanction, etc. Fautes, hein. C'était hyper intéressant.
Très peu de fautes, pas beaucoup de cartons.
Ouais, mais sur des contacts virils, il laissait un peu le jeu quand il
fallait laisser le jeu. Il a mis le carton quand il fallait. Quand il y a eu une grosse... À un moment donné, je ne sais plus, je crois que c'est Verratti qui fait une faute d'anti-jeu. Il y en a un qui fait vraiment une grosse faute d'anti-jeu.
C'est Verratti.
Il lui met carton bleu pour dire à tout le monde, je veux pas de faute d'anti-jeu, je veux que ça tente.
Non, c'était un match maîtrisé. Du coup, il n'y avait pas de tension sur le terrain. Et alors, il y a eu quand même 3 pénalty dans ce match. Ouais. On peut revenir sur le premier qui a un peu tout déclenché. Est-ce qu'il y a pénalty alors, Boris?
Moi, sur le coup, je dis qu'il n'y a jamais pénalty. Bon, après, quand je revois les images, je me dis que Mandanda, il fait n'importe quoi quand même.
Joël Mandanda Schumacher.
il fait n'importe quoi. La balle est passée. Mec, tu vas. Sur le moment, quand, à vitesse réelle, je vois juste le ballon qui est passé et qui se cartonne. Je me dis, mais non, mais mec, tu peux pas siffler pénalty là-dessus. La balle est passée, c'est terminé, etc. Mais en fait, quand tu vois qu'il a le genou à la hauteur du torse de Zlatan, tu fais bon, ok, mec, c'est une très très mauvaise sortie, une très très mauvaise lecture du jeu.
Ouais, donc il y a vraiment péno, mais tout le monde, les gens disaient, mais la balle est passée, il n'y a pas action de jeu, mais en fait, si, tout va bien. Il y avait penalty, c'est bien arbitré, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Le deuxième, c'est Rolando. Ton pote Rolando, il fait exprès, cette main, elle est volontaire,
je sais,
non?
Je sais pas si. Fin, après.
Non, mais il fait les marionnettes, quoi. Il se lève, il fait coucou.
Il fait un peu exprès de lever les bras.
C'est le fait de délibérément toucher le ballon de la main.
Non, après, ce qu'il dit, c'est d'agrandir la surface de.
Non, il y a des. La loi 12, là, c'est toucher délibérément le ballon de la main.
De toute façon,
provoque un pénalty, est sanctionné d'un pénalty. En même temps, qui saute? Enfin, il saute comme le tyrolien, les deux bras en l'air.
Et on voit de plus en plus de joueurs, et notamment Marquinhos et Thiago Silva qui font beaucoup ça. Dès qu'ils défendent dans surface, ils mettent les mains dans le dos direct.
Tout le temps, depuis hyper longtemps. Ouais, ouais.
Ouais.
Mais non, mais là, tu peux pas. D'ailleurs, personne n'a quoi que ce soit.
Et alors, Zlatan, justement, qui le tire 2 fois et qui le met, ça c'est fort quand même.
Moi je trouve ça fort. Hein. Enfin, parce qu'en plus,
il en tire 3
et il les met jamais. Enfin, il fait un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Toujours hyper bien placé, toujours hyper fort.
J'ai cherché une vanne sur un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, j'ai pas trouvé. Désolé.
Mais après, d'un côté, Mandanda, je crois qu'il a raté un seul pénalty dans toute sa carrière.
C'est pas vraiment
grave. Mais là, il les a tirés nickel.
Ouais, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Quoi. Ouais. Et de l'autre côté, Trapp qui fait un bel arrêt. Hein. Ouais.
Alors, pareil, un pénalty Marseille indiscutable, rien à dire.
Voilà, si, rouge même.
Rien à dire. Et donc, Trapp, franchement, il a rattrapé le match de Bordeaux. Les 2 points qu'il nous a fait perdre contre Bordeaux, il les a gagnés hier soir, non?
Ouais.
Après, je pense que contre Bordeaux, il tente et bon, bah, il s'est chié, hein, mais moi, je lui avais laissé le bénéfice du doute après Bordeaux. Là, je trouve qu'il a quand même confirmé. Après, il y a un truc, je sais pas, je le sens pas toujours serein. Tu sens qu'il stresse un peu, une espèce d'angoisse. Moi, je regardais un peu, j'écoutais les commentateurs qui disaient ouais, il dégage une sérénité. Enfin, moi, c'est pas ce que je dirais de prime abord. Par contre, le jeu au pied, bah, hier, c'était vraiment hyper classe hein, dans le jeu long, dans le jeu court. Il fait une ouverture sur le côté, ça tombe dans les pieds de Aurier, il a pas besoin de se prendre la tête, c'est dans sa course, ouais, etc. Ouais. Sur les ballons aériens, il sort deux ou trois fois. Il les capte, c'est pas, il les boxe pas, il prend les ballons. Les 3-4 premières frappes du match, c'est pareil, il les a captées sans les relâcher. Et il fait deux arrêts aussi en venant au devant de Cabella.
Et puis le but, il peut rien faire hein, sur le but. Hein.
Alors, non. Moi enfin, je dirais, c'est difficile. Il peut pas sortir.
Il y a les défenseurs dessus. Ouais. C'est compliqué.
C'est compliqué.
En tout cas, il a enfin justifié son transfert. Et on sait pourquoi il a été recruté.
Parce qu'il n'a pas que des pieds. Il a les mains aussi. Hein.
Il a les pieds, il a les mains, et il est quand même plus,
et pour
plus
la, solide. Et pour la data room, c'est 80% de passes réussies.
La data de Boris.
Kevin Trapp, alors que Sirigu plafonnait sur les 4 dernières saisons à moins de 70%. Ouais. Donc c'est quand même plus d'une passe réussie.
Ah ouais, non, mais c'est
des passes plus compliquées.
Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est bien. L'émission a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Je crois que c'est... l'engouement autour du PSG Marseille, forcément.
Oui, et puis c'était une semaine assez chargée.
Oui, c'était une semaine assez chargée.
Bien chargée. On a parlé de toute l'actualité du foot cette semaine. Mais
non, mais on a fait un tour intéressant sur les sujets qui nous intéressent. Ouais. La semaine prochaine, c'est les matchs de l'équipe de France qui ont lieu le 8 et le 11. On pourra faire un petit débrief sur ce qu'on a pensé justement de Lassana Diarra en équipe de France, de Matuidi, de tout ça, de voir comment ça se passe. Et avec Paul-Georges Ntep qui s'est fait un claquage et qui ne viendra pas. Je ne sais pas s'il va être remplacé encore, mais je ne sais pas s'il a annoncé un remplaçant. Mais ça va peut-être laisser
Moussa Sissoko est déjà là, donc on ne pourra pas le... Il pourrait pas se claquer à la place de Ntep.
Ah non, Moussa Sissoko, moi j'aime bien.
Ah, c'est le fils de Deschamps. Quoi.
Écoute, Moussa Sissoko, il est rentré en Espagne pendant les éliminatoires et il a changé la face du match quand on fait un partout là-bas. Et rien que pour ce match-là.
C'était Matuidi le patron.
Non, mais,
lui, Matuidi, pas leader technique.
Il peut y avoir plusieurs joueurs. Moussa Sissoko, il a changé le match et Moussa Sissoko,
j'aime bien comment il est sur le terrain, il est assez physique et tout. On n'a pas trop ce genre de gabarit-là.
On va garder ça pour la semaine prochaine.
Ouais, et puis vous aurez peut-être une petite photo de Bastien peint en bleu, blanc, rouge. On verra.
Ah bah ouais, ça va être belle celle-là.
En beau footix. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On continue, on tire la corde. Et puis rendez-vous sur le site passement-2-jean.fr. Vous dites au revoir.
Ciao, ciao.
Allez, salut.